Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'Assemblée nationale a voté la proposition de loi portant prorogation de l'état d'urgence. Au cours de la plénière de ce jeudi, les 67 députés présents ont examiné article par article ce texte de loi qui proroge l'état d'urgence de 15 jours. À son tour, le Sénat a également adopté cette proposition de loi. Comment analyser cette décision de proroger l'état d'urgence? C'est l'objet du débat dès ce soir. Et dans cette émission, nous avons Madame Christelle Vuanga, elle est députée nationale élue de la FUNA dans la ville de Kinshasa. Elle est présidente de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Bonsoir Madame Christelle Vuanga.
Bonsoir monsieur. Bonsoir et merci de l'invitation.
Docteur Didi Manara, député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il est aussi coordonnateur des présidents des groupes parlementaires membres du FCC. Bonsoir docteur Didi Manara. Bonsoir docteur Didi Manara.
Mes co-débatteurs du jour, ma collègue Christelle et monsieur Kabamba.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au début de cette émission, l'Assemblée nationale a voté la proposition de loi portant prorogation de l'état d'urgence. Au cours de la plénière de ce jeudi, les 67 députés présents ont examiné article par article ce texte de loi qui proroge l'état d'urgence de 15 jours. À son tour, le Sénat a également adopté cette proposition de loi ce même jeudi. Les détails avec Kéline Kouté.
Un quorum minimum a pris part ce jeudi 23 avril 2020 à la plénière de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Après la lecture de l'ordre du jour, les députés nationaux représentés, au total 67 sur les 500 que compte officiellement la Chambre basse du Parlement congolais, ont pris part au vote de cette proposition de loi visant à proroger l'état d'urgence sanitaire proclamé il y a un mois par le président Félix Tshisekedi. 64 députés ont voté pour la proposition de loi, un seul a voté contre. Et deux se sont abstenus. Le texte voté a été transmis au Sénat pour une seconde lecture. Signalons que la République démocratique du Congo fait face à la pandémie de coronavirus qui a déjà affecté à ce jour 377 personnes testées positives. Il y a eu 25 décès et 47 personnes guéries.
Merci à vous, Kelly Nkouté. Docteur Didi Manara, je rappelle que vous êtes député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi coordonnateur des présidents des groupes parlementaires membres du FCC. L'émission étant pédagogique, docteur, c'est quoi l'état d'urgence et qu'est-ce que cela implique en termes de gestion de la chose publique?
Merci beaucoup de la question. Laissez-moi le temps d'abord de saluer la mémoire de notre collègue le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, élu de Mbujimayi, qui a perdu sa vie, qui est décédé des suites de cette pandémie, la pandémie à coronavirus. Je salue également les efforts et je félicite tout le personnel médical à travers le monde, les médecins, les infirmiers, les brancardiers, tous ceux-là qui travaillent pour la lutte contre cette pandémie. Voilà. L'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une période critique. Une période critique qui, pendant laquelle les autorités, notamment le président de la République, prend des dispositions pour restreindre les droits et libertés en vue de donner la chance de lutte, de riposte contre un phénomène donné. Ici, il s'agit de la pandémie d'une maladie grave qui tue, qui sème la terreur à travers le monde. Et en République démocratique du Congo, cette maladie a été déclarée déjà au début du mois de mars. Voilà pourquoi le président de la République, dans le souci de lutter contre cette pandémie, a pris cette importante décision de la déclaration, évidemment, de l'état d'urgence chez nous en République démocratique du Congo.
Et qu'est-ce qu'une situation d'état d'urgence implique en termes de gestion de la chose publique?
En termes de gestion de la chose publique, comme je vous l'ai dit, il y a restriction toutes les libertés et les droits pour permettre à ce que cette pandémie soit donc pour permettre la lutte contre cette pandémie. C'est-à-dire qu'il y a des institutions. Il y a par exemple certaines institutions qui ne peuvent pas fonctionner. Vous avez vu dans son arrêté dans l'ordonnance du président de la République, il y a eu la suspension pratiquement de beaucoup d'activités au sein des écoles, au sein des églises, dans les communautés et par-ci par-là. Notamment, par exemple, à son article 3, il y a eu les mesures relatives à l'exercice des libertés. Ils sont interdits tous les rassemblements, toutes les réunions, toutes les célébrations de plus de 20 personnes sur les voies et les lieux publics en dehors des domiciles familiales. La population devait rester à domicile et qui ne devait effectuer que les déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé. Donc, en gros, en période d'état d'urgence, il y a la restriction des libertés, il y a la restriction des droits pour permettre à ce que les équipes, ici je parle de l'état d'urgence sanitaire, pour permettre à l'équipe de réponse de lutter efficacement contre cette pandémie qui est le Covid-19.
Voilà, vous avez adopté la proposition de loi portant prorogation de cet état d'urgence. Comment vous analysez cette décision de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat, de pouvoir proroger cet état d'urgence?
Très salutaire à la demande du président de la République par son ordonnance. Il a demandé aux deux chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de prendre des dispositions pour proroger. Parce que vous savez que la maladie, ici, à coronavirus, est encore dans sa phase évolutive, ici chez nous, à Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo. Vous savez que 5 provinces sont encore touchées de cette pandémie. Voilà pourquoi, puisque cette maladie est encore dans sa phase évolutive, et pour mémoire, nous avons un des taux de létalité ou le taux de mortalité le plus élevé de la planète. Donc, la moyenne mondiale étant de 3,5%, nous sommes encore à plus
on est à 6%.
70%, la moyenne mondiale des décès dus au coronavirus. Nous sommes au-delà de 70%, alors que la moyenne mondiale est de 3,5% des décès. Donc, voilà pourquoi le président de la République a jugé bon de demander aux deux chambres de proroger ces mesures restrictives en vue de continuer à encadrer cette population dans la riposte, à aider l'équipe de riposte, les médecins, les infirmiers, à pouvoir contourner toutes ces phases de cette maladie qui sème la terreur à travers notre pays, à travers la République démocratique du Congo.
Alors, est-ce qu'on peut connaître quelques points saillants de cette proposition de loi?
La proposition de loi n'a eu que deux articles. N'a eu que deux articles importants parce que vous savez que c'est l'article premier a parlé tout simplement de la prorogation. Parce que comme vous le savez, cette prorogation prend fin en principe aujourd'hui à minuit. Et il était impérieux que nous puissions, que les deux chambres puissent autoriser le président de la République à proroger cette date en vue de la riposte. Donc les deux articles qui sont, je précise ici que la proposition de loi est l'œuvre de notre collègue Mbosso qui a déposé au bureau de l'Assemblée nationale ce projet de loi.
Docteur.
L'article premier dit seulement que est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 24 avril 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020. Et l'article 2 dit que la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Mais on a ajouté également un article 3 qui dit toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance est suspendue.
Oui, lors du débat à la plénière de ce jeudi, plusieurs députés ont semblé, n'est-ce pas, déplorer le fait que l'on était en train de proroger l'état d'urgence alors qu'il n'existait aucune loi d'application de cet état d'urgence. Vous pensez que l'absence de cette loi d'application va créer une certaine confusion dans la gestion de cet état d'urgence?
Non, pas du tout. Bon, bien sûr, il est souhaitable qu'après promulgation de l'état d'urgence, il y ait une loi d'application, regarde l'article 85 et 144 de notre Constitution, et qui est cette loi d'application des êtres à temporalité permanente. Mais vu que cette loi n'existe pas, et cette loi devait être déposée par le gouvernement sous forme de projet. Donc s'il ne s'agissait que d'une proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale, je crois que les choses seraient déjà faites. Mais nous attendons, le bureau a écrit au gouvernement de pouvoir déposer ce projet de loi portant mesures d'application de l'état d'urgence ou de l'état de siège, mais nous attendons toujours cette loi. Mais chemin faisant, vu que nous sommes devant un cas de force majeure et que la date de qui a été promulguée par le chef de l'État pour cet état d'urgence prend fin aujourd'hui à minuit, nous devrions absolument prendre une mesure qui est cette loi. Vous savez que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne statuons que par la loi. Parce que cette matière ici, c'est une matière législative, parce qu'elle porte sur la restriction des droits et libertés des citoyens.
Merci, docteur.
Voilà pourquoi nous avons pris cette loi, pour permettre au chef de l'État de proroger cet état d'urgence, et au grand bénéfice de la population, parce qu'on ne peut pas... si on ne prenait pas cette loi, le président de la République serait en difficulté de proroger l'état d'urgence.
Merci. Merci.
La population pouvait vaquer à leurs préoccupations, et nous pouvions voir vraiment Émilie Mélo, et ça pouvait être très très malsain pour la santé de la population.
Merci, docteur. Christelle Vuanga, députée nationale, élue de la FUNA dans la ville de Kinshasa. Vous êtes aussi présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Et comment vous expliquez votre décision de proroger l'état d'urgence, la décision de l'Assemblée nationale ainsi que celle du Sénat?
Merci beaucoup, M. Kabamba. Je commence par saluer l'honorable Manara, mais aussi j'apporte toutes mes compassions à la nation congolaise et surtout aux Congolais de la diaspora qui ont perdu beaucoup de nos compatriotes. Alors, pour répondre à votre question, je pense que c'était de droit, c'était une suite logique. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, à nos jours, 120 pays ont été frappés par le Covid-19 et parmi lesquels 83 ont décrété les états d'urgence sanitaire. Et nous étions encore en retard, pour moi, on était un peu en retard, la machine était un peu lourde où on discutait certainement du juridisme ou de l'habillage qu'on devrait donner ou de la forme que l'on devrait donner. Et aujourd'hui, pour moi, marque une nouvelle ère, une grande décision qu'on prend d'accompagner les décisions du chef de l'État comme une institution et une institution indépendante. Donc, il faut savoir que moi, je suis particulièrement élue de Kinshasa. Des faits, les gens veulent savoir c'est quoi. Oui, nous prorogeons, oui, nous prolongeons, oui, mais des faits, la population demande plus de concret. Et vous avez entendu lors de mon intervention, certainement. J'ai parlé, par exemple, de l'article 61 de la Constitution qui détermine les droits qui sont inaliénables, qui sont intangibles, même pendant l'état de siège ou l'état d'urgence sanitaire ou l'état de guerre. Il y a certains droits qui sont non dérogeables, comme le droit à la vie, par exemple. Nous avons fait un monitoring dans les hôpitaux. Actuellement, vous allez remarquer qu'il y a plus de femmes qui ont accouché. Ils restent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de moyens. Les factures sont exorbitantes et ces femmes ne peuvent pas sortir. Alors, elles restent bloquées dans les hôpitaux alors que ce sont des hôpitaux publics. Il n'y a pas seulement pour la maternité. Nous avons remarqué aussi la pédiatrie. Nous avons remarqué aussi des actes de chirurgie qui sont encore bloqués parce que, évidemment, l'état d'urgence sanitaire, comme l'honorable Manara l'a si bien dit, c'est une restriction des droits. Et comme les droits sont interdépendants, lorsque vous touchez à certains droits, automatiquement, ça touche à d'autres droits aussi. Alors, nous voulons savoir, nous, Assemblée nationale, nous, députés, ok, nous prorogeons, mais sur les faits, qu'est-ce qu'on nous donne en retour?
Donc vous pensez qu'il faut, une approche globale, tenant compte, n'est-ce pas, de tous les droits dont doivent jouir tous les Congolais?
Et exactement, c'est ça que la population veut, c'est ça que le peuple demande chaque jour. Et en ce qui concerne même la gestion de la pandémie, chers collègues et chers journalistes, je vais vous dire, parce que moi je suis dans la sensibilisation sur le terrain, je sensibilise chaque jour, mais parce qu'il y a des poches de résistance. Il y a toujours des gens qui ne croient pas, il y a les compatriotes qui disent toujours qu'il n'y a pas de corona, c'est une invention, c'est en Europe qu'on le trouve, c'est aux Amériques, c'est pas ici. Mais il faudrait quand même se demander pourquoi ces compatriotes pensent qu'il n'y a pas la pandémie dans notre pays.
C'est la raison pour laquelle j'évoque là la proximité qu'il y a entre l'Assemblée nationale et la population. Les députés ont été élus, sont l'émanation de la population. Et donc, quand moi je vais sur la tribune, ou bien quand je discute avec mes collègues, ou bien nous devons discuter face au gouvernement, on doit leur dire la vérité. Qu'est-ce que le peuple pense? Le peuple se demande, par exemple, quand on nous dit telles personnes sont guéries, eh bien, dites-nous quel protocole on a utilisé. Parce que sur les réseaux sociaux, parfois, des images fusent de partout. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est inventé. Alors, on devrait avoir une vraie coordination qui va nous dire quel est le chemin qu'on doit prendre par rapport à la gestion de cette pandémie. Je ne dis pas que c'est une chance, mais je dis peut-être que c'est une opportunité que la pandémie soit arrivée chez nous après les autres. Donc les échecs des autres doivent nous servir des défis. Mais apparemment, il y a quelques lacunes. Évidemment, l'Assemblée nationale en tant qu'institution, et qu'aujourd'hui, on est enfin officiellement, si je peux le dire, on est officiellement et nous accompagnons les mesures du chef de l'État, mais nous estimons que le chef de l'État, avec ses mesures, va prendre en compte les droits de l'homme, les droits humains, dans le respect de notre Constitution.
Et donc, vous souhaitez aussi que l'on puisse améliorer la communication par rapport à cette pandémie, n'est-ce pas?
Exactement. Il faut améliorer la communication et puis il faut utiliser les leaders d'opinion. J'ai aimé la façon dont on a inclus les personnalités religieuses. C'est une marque de proximité avec la population. La population congolaise est vraiment pieuse. Et puis, il ne faut pas oublier, ça aussi c'est un dossier pour lequel je me bats beaucoup, c'est mon cheval de bataille aussi. Nous avons remarqué le taux élevé de violence et des viols pendant ce confinement, si je peux le dire, prédisposition de confinement, parce que la population a compris. Quand on dit à la population, ne sortez pas lorsque ce n'est pas utile, c'est déjà une prédisposition de confinement. Et cette prédisposition-là entraîne aussi des violences et des viols. Mais malheureusement, les juridictions actuellement renvoient les victimes de viols. Alors nous demandons aussi à la loi s'il y aura le projet de loi, parce que nous avons écrit au gouvernement que nous voulons aussitôt qu'on puisse nous déposer le projet de loi de modalité qui va accompagner, n'est-ce pas, l'état d'urgence sanitaire, de mettre en compte tous ces droits-là, surtout les droits dérogeables. Parce que nous, en tant qu'État, nous avons ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et ce pacte est clair. Ce pacte dit que les États parties peuvent unilatéralement décider de déroger certains droits. C'est un droit, les pays peuvent le faire. Mais seulement, il faut notifier, parce que si on ne notifie pas, on n'aura pas un canevas, surtout nous parlementaires, par rapport au contrôle.
Madame Christelle Wanga, et donc vous êtes convaincue qu'à l'absence de cette loi d'application, on peut craindre, n'est-ce pas, certains abus?
Exactement, vous avez compris. Donc on navigue à vue, alors que nous avons besoin sur le plan holistique de ce cadre légal qui va permettre à encadrer les libertés publiques, même pendant l'état d'urgence sanitaire.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Votre analyse par rapport à l'adoption de cette proposition de loi par les deux chambres du Parlement?
C'était la suite logique des événements. Mais il faut d'abord la Cour constitutionnelle a tranché une question importante et a donné une clarification sur la signification à accorder à certains articles de la Constitution. Alors, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il ressort que le chef de l'État peut déclarer l'état d'urgence, qui font preuve, évidemment, après consultation du président de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Premier ministre, mais sa prolongation requiert le feu vert du Parlement. Et donc, le fait qu'on soit arrivé à échéance de la période des 30 jours et qu'il demande la prolongation pour 15 jours de l'état d'urgence, donc c'est évidemment dans la bonne logique des choses.
Voilà, vous dites que c'est la suite logique des choses, mais en plus de cette question sur la prorogation de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale, on a vu ça aujourd'hui, hein, l'Assemblée nationale a décidé de se pencher sur d'autres matières en adoptant le calendrier de cette session ordinaire. Et vous ne pensez pas que cela peut encore susciter des débats dans la classe politique, étant donné que la volonté du chef de l'État était que les élus puissent traiter uniquement, n'est-ce pas, de la prorogation de l'état d'urgence.
Bon, il faut dire que ces derniers temps, il y a une grande dissension que l'on constate entre le FCC et le CASH sur un certain nombre de choses. Et c'est cette dissension-là qui finalement éclate au grand jour, qui a fait que le Parlement a voulu saisir son indépendance et dire nous n'allons pas nous limiter uniquement à la matière prescrite par le chef de l'État dans son ordonnance, rien, nous, dans notre indépendance, nous choisissons évidemment d'aller au-delà. Mais je ne crois pas que ça soit très important pour nous, parce que ce qui est important pour le moment, en cette période, c'est la santé du peuple congolais. Et je crois que le fait qu'ils aient prolongé l'état d'urgence est une très bonne chose. Mais ce qu'il faut dire là, c'est qu'en fait, la prolongation de l'état d'urgence est très nécessaire, mais elle est aussi encadrée juridiquement, parce que vous savez que pendant l'état d'urgence, il y a beaucoup de restrictions des libertés publiques, et parmi ces restrictions, vous avez par exemple l'interdiction dans la circulation, par exemple dans la commune de la Gombe, vous avez l'interdiction des réunions de plus de 20 personnes, vous avez la réquisition des personnes ou de moyens qui peuvent être faites, vous avez l'autorisation des perquisitions administratives. Donc, vous avez là une série de restrictions des libertés publiques qui doivent juridiquement être encadrées. Et c'est pour cette raison que la loi sur l'état d'urgence et même l'état de siège doit être une priorité pour le Parlement actuel. Il faut absolument éviter de naviguer à vue et d'avoir une loi qui clarifie les choses.
Voilà, parce que vous évoquez cette loi, hein, on a suivi les différentes interventions des députés, n'est-ce pas, qui ont relevé ça comme une préoccupation. Et comment vous expliquez que le gouvernement puisse rester passif? Comment vous expliquez que le gouvernement ne puisse pas, n'est-ce pas, initier ces projets de loi un mois après que le chef de l'État ait proclamé cet état d'urgence?
En fait, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi, alors que la Constitution a été adoptée il y a plusieurs années, depuis 2006, pourquoi depuis lors, on n'a jamais eu une loi qui organise évidemment cet état de choses. Évidemment, il y a là, de mon point de vue, une matière prioritaire pour l'actuel Parlement, afin qu'elle dote le pays d'un outil très important qui pourra éviter au pays toutes sortes d'interprétations, parce que pour aujourd'hui, on constate que chaque camp prépare des juristes qui s'appuient sur telle disposition et pas sur telle autre, et donc ça crée un imbroglio juridique qui n'est pas très bon pour la République démocratique du Congo.
Et si jamais le gouvernement ne dépose toujours pas ses projets de loi au Parlement, qu'est-ce qui pourrait se passer? On a suivi le député Henri Thomas Lokondo qui, lui, a dit qu'il a déjà, n'est-ce pas, élaboré une proposition de loi portant application pendant cet état, n'est-ce pas, d'urgence. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut-il recourir, n'est-ce pas, à cette proposition de loi du député Henri Thomas Lokondo, ou il faut pousser, n'est-ce pas, le gouvernement à pouvoir déposer ces projets de loi parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que c'est le gouvernement qui doit initier ces projets de loi?
Je crois qu'il faut d'abord attendre pour voir si le gouvernement aura finalement fait de cette question une priorité. Et bien, dans le cas où ça ne vient pas, évidemment, les députés peuvent se saisir de la question. Mais au-delà de ça, on constate quand même qu'il y a véritable problème au sein de cette majorité. Le mode opératoire de cette majorité a beaucoup changé. Les dissensions internes sont carrément mises à la place publique, avec une hyper-utilisation de la presse. Les jeux de couloir sont progressivement abandonnés, et visiblement, on a affaire à une majorité coalisée qui manque d'homogénéité et de sincérité politique, et on a comme l'impression que cette unité de façade de la majorité se façonne en fait autour de deux personnes, Tshisekedi et Kabila. Et donc, il faut que ces deux se rencontrent pour finalement donner des instructions à leur lieutenant. Et donc, on a comme l'impression que le ressort sur lequel repose cette majorité est très fragile et peut céder à tout moment.
Merci, docteur Didi Manara. Vous allez réagir à ces commentaires, n'est-ce pas, qui viennent de Lubumbashi.
Victor Banco Bwedi, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous remercions nos élus d'avoir voté une loi concernant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et ceci prouve à suffisance que la démocratie, c'est aussi le respect de la Constitution. Mais nous trouvons qu'il serait nécessaire que le Parlement puisse inviter les groupes de riposte pour que ces derniers devraient éclairer aux élus sur l'évolution de la pandémie de façon que si après 15 jours, il y aura éradication ou non.
Docteur Didi Manara.
Non, merci beaucoup. Je suis très content de cette intervention de notre ami, je crois, de Bukavu, si j'ai bien saisi.
De Lubumbashi.
Mais laissez-moi le temps de dire un mot sur ce que vient de dire Monsieur Kabamba par rapport donc sur la question des droits des députés à se réunir, ainsi de suite. Monsieur le journaliste, vous savez que la République démocratique du Congo a opté comme mode de gestion la démocratie. Et nous avons des pouvoirs. Vous allez remarquer, par exemple, que le pouvoir judiciaire, les cours et tribunaux fonctionnent normalement. Les magistrats, les juges sont en train de travailler. Le pouvoir judiciaire fonctionne. Et si vous allez du côté de l'exécutif, et d'ailleurs, lorsque vous lisez cette ordonnance du président de la République, il dit « Le conseil des ministres est entendu ». Vous savez ? Vous avez entendu ? Les conseils des ministres est entendu. Cela veut dire que les ministres sont en train de travailler. Le gouvernement est en train de travailler. Le pouvoir exécutif fonctionne. Et pourquoi est-ce que le pouvoir législatif seul ne peut pas fonctionner ? Là, ce sont des questions qui constituent pour nous une véritable interrogation. S'agit-il là d'une tentative de dérive dictatoriale ? On ne sait pas. Nous ne pensons pas que nous allons aller dans ces schémas-là, parce qu'il sera contre-productif. Et l'Assemblée nationale et le Sénat sont en session. Et même, la Constitution dit clairement que en période de l'état d'urgence ou de l'état de siège, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de droit. Et même s'ils sont en vacances parlementaires, une session extraordinaire est convoquée. Donc, nous avons jugé bon que de continuer à travailler normalement. Voilà pourquoi, au cours de cette plénière d'aujourd'hui, nous avons même voté le calendrier de travail de nos sessions.
Honorable Didi Manara.
Nous avons voté les lois.
Honorable Didi Manara.
Nous avons voté le gouvernement. Et voilà pourquoi notre ami là, qui a parlé de l'appel de l'équipe de riposte, effectivement, nous avons évoqué cette question. Il s'agit d'une question de contrôle parlementaire qui entre dans le cadre de l'exercice de notre pouvoir. Nous allons inviter non seulement l'équipe de riposte, mais nous allons inviter le Premier ministre et tous les membres du gouvernement qui sont concernés par cette question. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires humanitaires, tous les ministres concernés doivent venir répondre de leur au devant des élus du peuple par rapport à cette question de la pandémie à coronavirus.
Docteur Didi Manara, on a l'impression qu'il y a une certaine volte-face, n'est-ce pas, de votre part. On se rappelle que les parlementaires eux-mêmes, n'est-ce pas, ont refusé de tenir des plénières pour des raisons de santé. Est-ce que le chef de l'État n'a pas été, n'est-ce pas, devant un fait accompli? Il a constaté que les parlementaires, étant donné que toutes les conditions n'étaient pas réunies, ne veulent pas, en fait, ils estiment qu'ils ne doivent pas tenir des plénières. Et lui, dans son ordonnance, il a fixé, n'est-ce pas, la matière qui devait concerner cette plénière.
Si nous avons suspendu nos plénières pour quelques temps, c'était pour des raisons totalement pédagogiques, pour dire aux Congolais qu'il y a ces dangers du virus, donc de la maladie à coronavirus. Voilà pourquoi nous suspendons pendant un temps. C'était jusqu'au 4 avril, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais cela ne voulait pas dire que nous ne voulions pas travailler ou que nous n'allions plus travailler à cause de l'état d'urgence. Non, c'était une très mauvaise lecture, dire comme ça. Donc nous, nous sommes en session. La Constitution, je crois, elle est au-dessus de tout le monde. Nous avons dressé notre calendrier et nous allons continuer. Vous savez, les articles de cette Constitution, ils sont en train de s'entrechoquer. L'article 119 dit, je ne veux plus revenir à ça parce que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, nous nous inclinons. Nous nous inclinons et le président de la République a déjà demandé la prorogation. Nous lui avons déjà accordé parce que nous pensons que nous, peuple congolais représenté à l'Assemblée, nous avons cette capacité, compétence-là, constitutionnelle de pouvoir ordonner la prorogation de cet état d'urgence et même la proclamation au premier abord.
Merci, honorable Christian Vuanga. Vous allez réagir, n'est-ce pas, à cette réflexion qui vient de Kananga.
C'est Evariste Kabadi à Kananga, au Kasaï central. À mon avis, l'Assemblée nationale a bien fait pour proroger l'état d'urgence comme a été le souhait du président de la République. L'Assemblée nationale pouvait aussi voter une loi permettant à d'autres provinces qui ne sont pas touchées par cette maladie continuer leur activité comme d'habitude.
Oui, honorable Christelle Vuanga.
Exactement, merci beaucoup. Je pense que le compatriote a tout à fait raison, c'est même l'idéal d'avoir cette loi de modalité et d'application des cas d'urgence. C'est cette loi qui permettrait justement à donner les grandes orientations, qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire, qu'est-ce que nous devons faire pendant cet état d'urgence sanitaire. Mais permettez-moi aussi de revenir et de lancer un mot par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au projet de loi. Il faut savoir que dans l'arsenal de loi, il y a plus de projets de loi que de propositions de loi. On le dit parce que, évidemment, les ministres, comme ils sont dans l'exécutif, ça sous-entend qu'ils sont proches, ils sont proches de la population et ils sont en train de travailler et l'amélioration et comment ça se déroule et ils peuvent s'en servir justement pour projeter de loi. Alors, malheureusement, jusque-là, on aurait dû déjà avoir ce projet de loi à l'Assemblée nationale pour commencer à donner forme des amendements et pourquoi pas voter déjà ce projet de loi. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne l'a pas et on espère que aussitôt nous aurons cette loi à l'Assemblée nationale qui va nous permettre de cogiter.
Peut-on dire que vous avez décidé sur une situation dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants?
Nous maîtrisons, le plus d'ailleurs, parce que nous sommes des élus du peuple. Tout ce que l'on dit aujourd'hui, que ce soit faire du juridisme, que ce soit extrapoler, parce que parfois tout le monde veut paraître que nous sommes intelligents, écoutez, nous pouvons dire des articles, écoutez, mais comme l'honorable Manard a dit, alors à la fin de compte, la population n'a pas besoin de ça. La population veut savoir c'est quoi, qu'est-ce que je vais faire, le lendemain sera composé de quoi, est-ce que mon enfant pourrait aller à l'école, les examens d'État approchent, est-ce que mon enfant va passer l'examen d'État, tant de questions que la population attend juste des réponses. Et ça revient à nous, les députés, de leur donner ces réponses-là. Et il faut un cadre légal, c'est la loi. Je reviens encore à cette affaire du juridisme. C'est vrai que le prof Kabamba a effleuré tout à l'heure. Nous avons l'impression comme si les juristes, parfois, prennent la République en otage. Ça, c'est pas fait, c'est une vérité, il faut le dire. Parce que lorsque nous écoutons les juristes, qu'ils soient de gauche et de droite, nous qui sommes profanes, on a l'impression qu'ils sont dans le vrai. Tout le monde dit la vérité. Alors que parfois, tout le monde ne dit pas la vérité. On a l'impression que les juristes tirent leur couverture par rapport à leur tendance politique et non par rapport à la République. Mais c'est vraiment dommage qu'à chaque fois que nous sommes butés à observer les débats du juridisme qui n'aboutissent pas, alors que le peuple est devant un fait accompli. Nous sommes là devant une situation liée aux droits humains. Le Congolais se pose la question de son avenir et nous devons donner les réponses.
Alors, vous êtes allé au-delà de la volonté du chef de l'État exprimée à travers l'ordonnance qui a été publiée récemment. Et lui souhaitait que les élus puissent se limiter, n'est-ce pas, à la loi sur la prorogation de l'état d'urgence. Mais vous êtes allé au-delà parce que vous avez adopté le calendrier pour cette session.
Je pense que la République est une chose sérieuse. Alors on doit rester sérieux en République. Nous sommes devant un régime de séparation du pouvoir. l'Assemblée nationale est une institution indépendante. Au-delà de nos tendances politiques, au-delà des théories du complot, on ne peut pas oublier ce côté sacré des institutions, notamment l'Assemblée nationale. Je ne sais pas trop dire si le chef de l'État a souhaité, mais je pense que dorénavant, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et si l'Assemblée nationale est indépendante, c'est le chef de l'État qui aura gagné tout ça, parce que c'est lui le chef. Je pense qu'on doit garder notre indépendance et on n'a rien fait, on a comploté contre personne. Tout ce qu'on a fait, c'est voter un calendrier qui est d'ailleurs le nôtre et quel calendrier appartient aussi au peuple, parce qu'il y a des propositions, des lois qui vont améliorer la situation de la population, surtout la proposition portant promotion et protection des personnes handicapées, qui est une loi formidable, qui pourra donner une place à cette minorité qui sont nos frères.
Honorable Christelle Wanga, qu'est-ce qui se passera, n'est-ce pas, si jamais cette loi d'application n'est pas déposée au Parlement? Ces projets d'application, de fait, ce projet des lois d'application, voilà.
Évidemment, nous serons certainement sur les mesures, nous allons travailler sur les mesures évoquées par les chefs de l'État, mais c'est comme ça que l'on dit, pourquoi pas donner quelque chose de fondamental. Nous travaillons tous pour que cette loi-là soit adoptée et votée à l'Assemblée nationale. Je ne serai pas négativiste pour dire qu'il n'y en aura pas, je préfère rester dans le positivisme pour dire qu'il y aura cette loi, et cette loi nous permettra de donner les grandes orientations.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kalemi.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron, depuis la province de Tanganyika, Kalemi. Nous saluons avec ferveur toutes les initiatives prises par le gouvernement tendant à obstruer la prolifération du coronavirus. Toutefois, nous demandons pourquoi n'est pas appliquée cette loi seulement aux provinces déjà atteintes, et laisser les provinces immaculées, c'est-à-dire n'ayant enregistré jusque-là aucun cas, continuer à exercer leur activité fréquemment comme ça s'est fait en Europe. Telle est ma préoccupation.
Oui, professeur Félix Kabamba, c'est une préoccupation qui revient hein, souvent. Comment vous réagissez à cela?
Il me semble que jusque-là, le gouvernement agit en concertation avec les scientifiques, avec le comité de lutte contre le coronavirus, et l'ensemble des dispositions qui ont été édictées semblent ne pas provenir uniquement du gouvernement. Alors, est-ce que la décision de mettre toutes les provinces et de le soumettre à l'état d'urgence, est-ce que c'est une décision qui découle d'une concertation entre les différentes parties prenantes? Jusque-là, il me semble que c'est le cas. Mais si, dans l'évolution de la pandémie, il s'avère que les autres provinces peuvent évoluer de manière tout à fait distincte de Kinshasa, qui est l'épicentre, eh bien, je crois que cette évolution va également impacter les prochaines dispositions qui seront prises au niveau de la République. Mais pour le moment, il me semble qu'il faut d'abord regarder l'évolution de la pandémie avant de prendre une décision de cette ampleur.
Justement, comment vous entrevoyez la suite de cette situation? Si la maladie n'évolue pas comme on le souhaite, qu'est-ce qui se passerait, à votre avis?
Alors, ce qui se passerait, c'est que Kinshasa ne va pas prendre en otage toute la République. Il y a des provinces qui pourront avancer, qui ne pourront pas être sous le coup de l'état d'urgence. Et probablement, on va se limiter à la province de Kinshasa qui est le centre de propagation du virus. Eh bien, si Kinshasa n'arrive pas à résorber cette crise, je crois qu'on va continuer à durcir les conditions au niveau de Kinshasa, mais en libérant certaines provinces qui ne sont pas du tout affectées par le coronavirus pour que les activités se déploient et que les libertés publiques soient totalement retrouvées. Parce que sinon, comment expliquer le fait que, alors qu'elles ne sont pas, il n'y a pas de danger, pourquoi on va continuer à les soumettre dans des conditions de restriction de liberté publique? Je crois qu'il faut d'abord voir comment la situation va évoluer avant de pouvoir décider.
Oui. Honorable Didi Manara, ça sera sous votre conclusion. Hein. Comment vous entrevoyez la suite? J'ai posé la même question au professeur Félicien Kabamba. Si jamais les choses n'évoluent pas comme on les souhaite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment vous comptez, vous, n'est-ce pas, gérer cette situation-là?
Je ne voudrais pas être un prophète des malheurs. Je suis un chrétien et je crois que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a sa main sur la République démocratique du Congo. Et nous pensons qu'il faut beaucoup de moyens à donner à l'équipe des ripostes contre cette pandémie. Et nous pensons que l'Assemblée nationale va continuer à faire ses actions pour essayer d'optimiser tout ce qui est en train de se faire pour lutter contre cette pandémie. Et les moyens doivent être donnés et à Kinshasa et à toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
Voilà, vous avez évoqué ici que pendant cette session, le Parlement va jouer son rôle comme il se doit, notamment en procédant par les contrôles parlementaires. Comment les choses vont se passer dans la pratique, docteur Didi Manara?
Je pense que dans les jours qui vont venir, nous allons inviter le Premier ministre et les membres de son gouvernement, ainsi que l'équipe des ripostes, évidemment, qui cette équipe doit venir répondre. Le gouvernement, c'est d'abord le gouvernement qui répond devant le Parlement, qui doit venir répondre de tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qui sera fait par rapport à la riposte à ces COVID-19. Et nous pensons que les choses vont très bien évoluer. La main de Dieu est sur la République démocratique du Congo.
Madame Christelle Wanga, comment vous entrevoyez la suite de la situation?
Bon, je pense qu'on ne peut souhaiter que le meilleur pour son pays. Je pense que le Madagascar a donné aujourd'hui un coup d'envoi pour la médecine traditionnelle et je pense que nous avons une grande boîte à pharmacie et la forêt équatoriale et je ne pense pas que si l'on peut fouiller dans cette forêt-là, je ne pense pas qu'il manque cet arbre qui peut guérir cette pandémie. On peut le trouver quelque part, mais pour ça, il faut des moyens. Donc cette situation doit nous aider, nous mettre devant nos responsabilités individuelles et collectives par rapport à la gestion de la République. Parfois, on pense que ce n'est que la population, ce n'est pas nous. Mais vous avez entendu l'honorable Manara dire au début qu'on a perdu un de nôtres, le bâtonnier Mukendi, un excellent parmi nous, il est parti. Donc, nous faisons partie de la population et nous estimons que mettre les moyens pour barrer cette pandémie, c'est aussi mettre les moyens pour barrer carrément la pauvreté. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, je me demande si on doit battre seulement contre la pandémie et non contre la pauvreté. Mais je pense que c'est plus contre la pauvreté parce que c'est la pauvreté qui nous permettra justement de dire combien d'argent nous devons mettre dans nos hôpitaux,
merci, madame,
combien d'argent nous devons mettre dans nos écoles.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Professeur Félicien Kabamba, en conclusion, qu'est-ce que vous diriez?
Je voudrais saluer la prolongation de l'état d'urgence par le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est véritablement la voie de la raison.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique et à Donna Madimba et Kéline Touté qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite au programme sur Radio Capi.